Vous écoutez France Culture, il est 8h. Le journal est avec Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Les eurodéputés vont-ils adouber Ursula von der Leyen, celle qui a été désignée par les chefs d'État et de gouvernement pour présider la Commission européenne, doit encore obtenir la majorité absolue au Parlement européen qui va s'exprimer ce soir. Rien n'est joué, nous dira Johanna Hochstein.
Rien n'est joué non plus sur la ratification par les députés français du CETA. Le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada soulève beaucoup d'oppositions, notamment sur l'efficacité réelle de son veto climatique. C'est ce que nous dira Marie Viennot dans ce journal.
Nous reviendrons encore sur la détention en Iran de la chercheuse Fariba Abdelra. Elle n'est pas la seule binationale à être détenue ainsi par Téhéran. Et puis sur l'arrivée du virus Ebola à Goma, en République démocratique du Congo.
En France, les partenaires sociaux rendent leur avis aujourd'hui sur le décret réformant l'assurance chômage.
Enfin, la Joconde déménage. Elle change de salle, pas de musée, mais c'est toute une affaire que nous expliquera Théo Conscience. Son élection est loin d'être acquise et pourtant Ursula von der Leyen a multiplié les promesses et les propositions hier aux eurodéputés qui devront se prononcer donc ce soir pour son élection. Cette proche d'Angela Merkel, ministre de la Défense en Allemagne, qui n'était pas candidate aux élections européennes, a besoin de 347 voix, soit la majorité absolue du Parlement européen, pour devenir présidente de la Commission ce soir. Un vote sans seconde chance. Ursula von der Leyen avait été désignée par les chefs d'État et de gouvernement il y a plusieurs semaines, mais le feu vert des députés réunis à Strasbourg est loin d'être acquis. C'est en tout cas ce qu'a constaté Johanna Hochstein.
Les écologistes ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils voteront contre la candidate allemande, Yannick Jadot, eurodéputé français.
Tout pêche dans ce processus qui a été un véritable déni de démocratie, puisque rien du scrutin du 26 mai n'a été retenu, à la fois le signal écolo, la volonté évidemment de respecter le Parlement européen et ses candidats. Mais surtout aujourd'hui, ce qui pêche, c'est le programme.
Même son de cloche du côté du socialiste belge Marc Tarabella, qui n'a pas été convaincu par l'audition d'Ursula von der Leyen la semaine dernière devant le Parlement européen.
Comment on fait face aux migrations? La lutte contre la fraude fiscale, réponse évasive. Je ne peux plus accepter de voter sur de simples promesses, il faut un vrai programme.
Les députés de droite, en revanche, qui sont majoritaires au sein de l'hémicycle, soutiennent ouvertement la candidature de la ministre allemande, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains.
C'est une personnalité politique de premier plan qui est très à l'écoute, mais qui parle aussi parfaitement l'anglais, le français. Elle est francophone, pour nous c'est un point important.
Mais l'issue du vote dépendra aussi de la prestation d'Ursula von der Leyen ce matin devant le Parlement. Elle devra répondre pendant plus de 3 heures aux questions des eurodéputés.
Johanna Hochstein, Ursula von der Leyen qui a promis de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. Or, ses engagements climatiques européens sont fortement compromis par la signature des traités de libre-échange entre l'Europe et ses partenaires. C'est en tout cas ce qu'estiment plusieurs experts et ONG. Ils appellent les députés français à ne pas ratifier un accord pourtant entré en vigueur depuis plusieurs mois, partiellement le CETA, traité entre l'Union européenne et le Canada. Les parlementaires français doivent en effet se prononcer sur le sujet demain. Une ratification nationale rendue nécessaire parce que le CETA comprend un volet investissement qui est une compétence des États nationaux et de Bruxelles. Il est critiqué, ce CETA, notamment parce qu'il ouvre la possibilité pour des investisseurs canadiens d'attaquer des États de l'Union s'ils estiment que des nouvelles lois vont contre leurs attentes d'investisseurs. Pour limiter les abus, la France a réussi à faire négocier un veto climatique annexé aux accords. Mais est-ce que ce veto est une véritable garantie? Les explications de Marie Viennot.
Le veto climatique, on pourrait penser que c'est la possibilité de bloquer le CETA et son application si le Canada, par exemple, dévie de ses engagements climatiques. Or, ce n'est pas du tout ça. Si le Canada sort de l'accord de Paris dans les mois ou années qui viennent, le CETA continuera de s'appliquer. Le veto climatique, dans le CETA, c'est la possibilité pour l'Union européenne et le Canada de donner leur interprétation de l'accord dans le cas où une mesure en faveur du climat ou même de l'intérêt général est attaquée par un investisseur. Cette interprétation lie ensuite le tribunal, mais elle n'arrête pas les poursuites, regrette Sabrina Robert-Kuende. Elle est membre de la commission Schubert qui avait été mandatée il y a 2 ans par Emmanuel Macron pour donner un avis sur le CETA. C'est de cette commission d'experts indépendants que vient l'idée du veto climatique Mais selon la juriste, la version reprise dans le CETA est insuffisante.
Le veto climatique tel que l'a proposé la commission Schubert, il est inspiré d'un autre mécanisme qui existe déjà dans certains traités, et notamment dans le traité CETA, qui est le veto fiscal. C'est-à-dire que en matière fiscale, si un investisseur se plaint d'une mesure fiscale, les parties peuvent opposer un veto. La procédure devant le tribunal, elle est suspendue et nous allons examiner si cette mesure elle est compatible ou non avec le traité. Et si les parties estiment que la mesure est compatible avec le traité, la procédure devant le tribunal n'a plus cours. Avec la proposition du gouvernement, on n'a pas cet arrêt de la procédure et celle-ci se poursuit.
Avec à la clé un possible effet dissuasif sur les pays qui auraient voulu aussi adopter la mesure qui se retrouve attaquée. Le veto n'en est donc pas vraiment un, d'autant plus qu'il faut l'accord du Canada et l'unanimité des États de l'Union européenne pour déclencher la procédure. Les partisans du CETA voient eux le verre à moitié plein et répondent que jamais un accord n'avait autant garanti le droit des États à légiférer dans l'intérêt général.
Marie Viennot, revenons à présent sur l'arrestation en Iran de la chercheuse franco-iranienne de Sciences Po Paris, l'anthropologue Fariba Adelra. L'information a été donnée hier par le ministère français des Affaires étrangères. Arrivée en France à la fin des années 70, cette chercheuse étudiait notamment le féminisme en Iran. Elle avait exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes sur l'état de la recherche et des chercheurs en Iran, à l'occasion notamment de l'arrestation d'une étudiante française à l'université d'Ispahan. Et de fait, ça n'est pas la première fois que des chercheurs se retrouvent ainsi prisonniers en Iran. Le régime des mollahs semble coutumier du fait. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
Il existe un point commun entre ces prisonniers, tous possèdent une double nationalité. Ils seraient une dizaine dans le même cas si l'on en croit certaines ONG des droits de l'homme. La chercheuse Fariba Adelra, pour laquelle les autorités françaises se mobilisent, est franco-iranienne. Mais l'on pourrait parler aussi de Nazanin Radcliffe. Cette femme de 41 ans a été arrêtée en 2016 alors qu'elle travaillait pour une association humanitaire. Depuis, elle est emprisonnée pour complot contre le régime. Elle a commencé une grève de la faim il y a quelques semaines pour se faire entendre. Particularité, elle est britanno-iranienne. D'autres histoires similaires existent. Elles concernent par exemple une enseignante irano-canadienne ou encore un citoyen irano-américain. Une double nationalité qui se transforme en vrai handicap pour ces hommes et ces femmes, puisqu'une fois sur le sol iranien, ces personnes deviennent iraniennes, sont traitées comme telles et doivent répondre aux lois de leur pays. Cela rend plus compliqué les pressions pour les faire libérer, mais cela reste pour le régime des mollahs une excellente monnaie d'échange lorsqu'il s'agit de faire monter les enchères diplomatiques.
Et on reviendra sur cette arrestation de Fariba Adelra avec nos deux invités dans les matins d'été de France Culture, Armad Salamatian et Armin Arefi. La suite du journal d'Anne-Laure Chouin à 8h08. À Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, un premier cas de fièvre hémorragique Ebola a été confirmé hier. La ville est un carrefour de la région africaine des Grands Lacs et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète.
Oui, ce premier cas fait craindre une extension de l'épidémie déjà présente dans l'Est du pays. Il s'agit d'un prêtre arrivé dimanche à Goma et évacué d'urgence vers l'épicentre de l'épidémie Butembo en République démocratique du Congo. Donc, les autorités appellent au calme et mettent en place des dispositifs de prévention, mais la propagation du virus Ebola est difficile à anticiper. Capucine Jaffet.
Goma s'y préparait depuis plusieurs mois et a donc enregistré son premier cas Ebola. Une situation très inquiétante pour Gwenola Serrou, responsable des urgences de Médecins Sans Frontières.
Le scénario qu'on redoutait plus, c'est ce cas confirmé pour la première fois à Goma. Plus d'un million de personnes avec beaucoup de quartiers très concentrés en population de quartiers qui sont déjà assez vulnérables, même pour une épidémie de choléra. Le grand challenge maintenant, c'est est-ce qu'on peut s'assurer que tous les moyens sont là.
Pour lutter contre la propagation du virus, il faut vacciner. Mais selon Gwenola Serrou, la vaccination est encore difficile à mettre en place.
Par jour, on ne vaccine pas assez par rapport au nombre de cas que nous avons. On est entre 10 et 15 cas confirmés par jour. Donc il faudrait quasiment vacciner au-delà de 1000 personnes par jour. On entend aussi que cette épidémie devrait pouvoir se terminer d'ici 6 mois. Et donc il y aurait assez de vaccins. Et on a de sérieux doutes.
Alors que l'épidémie est toujours difficile à contrôler, le virus a tué plus de 1600 personnes depuis août dernier.
Capucine Jaffet. En France, les partenaires sociaux doivent s'exprimer aujourd'hui sur l'assurance chômage, plus exactement sur le projet de décret qui traduit juridiquement la réforme contestée de l'assurance chômage. Un texte très technique, envoyé la semaine dernière par le ministère ministère du Travail et qui est censé mettre en œuvre les mesures annoncées à la fin du mois dernier. Et notamment, Catherine Pétillon, le durcissement des règles d'indemnisation.
D'abord, les règles pour bénéficier de l'assurance chômage seront plus strictes. Dès le 1er novembre, pour ouvrir des droits, il faudra avoir travaillé 130 jours ou 910 heures, soit 6 mois, au cours des 24 mois précédents, contre 4 mois sur 28 aujourd'hui. Dans la même logique, le seuil à partir duquel une personne en activité réduite rechargera ses droits passera à 6 mois contre 1 aujourd'hui. En somme, il sera donc plus dur d'être indemnisé. Autre grand changement, le niveau de cette indemnisation, en particulier pour les personnes qui ne travaillent que quelques jours ou heures par mois. L'exécutif juge que les règles leur sont trop favorables. La méthode de calcul de l'allocation changera donc à partir du 1er avril 2020, avec pour conséquence de réduire le salaire journalier de référence, c'est-à-dire ce qui sert de base à l'indemnisation. Selon une première évaluation de l'UNEDIC, 1,2 million de personnes pourraient voir leur indemnisation réduite et 500 000 l'ouverture de droits annulée ou retardée. Un chiffrage contesté par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, estime qu'il ne tient pas compte des changements de comportement induits par la réforme. Le texte précise aussi la dégressivité pour les salariés de moins de 57 ans qui gagnaient plus de 4 500 euros bruts. Au bout du 7e mois, leur indemnisation sera réduite de 30%. Les partenaires sociaux devraient sans surprise donner un avis négatif sur ces textes, mais ils n'ont plus la main dessus. Seul le Conseil d'État peut encore amender ces décrets.
Autre texte qui sera, lui, soumis à la sagacité des parlementaires, le projet de loi ayant trait à la reconstruction de Notre-Dame, 3 mois après l'incendie qui ravageait le toit de la cathédrale. Ce projet prévoit, par exemple, de porter à 75% le taux de la réduction d'impôt au titre des dons et versements dans une limite de 1000 euros. Un texte qui ne provoque pas le consensus. En première et deuxième lecture, le Sénat l'a systématiquement retoqué. Ilan Malka.
L'article 9 en particulier a suscité de nombreux désaccords entre les deux chambres. Que prévoit-il ? Que pour faciliter les travaux, le gouvernement puisse déroger, par ordonnance, à des règles de voirie, d'urbanisme ou encore d'environnement. Les sénateurs ont plusieurs fois supprimé cette disposition. La centriste Catherine Morin-Desailly est présidente de la commission de la culture au Sénat.
Il n'y a pas de raison que dans les territoires où sont conduits d'autres chantiers patrimoniaux, là on soit obligé de respecter la législation. Il y a deux poids, deux mesures et c'est ce côté loi d'exception qui a posé problème au Sénat.
L'objectif du gouvernement, c'est bien sûr d'aller vite, de respecter l'horizon des 5 ans qui avait été fixé par Emmanuel Macron. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Catherine Morin-Desailly.
Ces 5 ans, c'est un objectif, mais prenons garde à ce que ça ne devienne pas un impératif qui ferait en sorte que on bâclerait un certain nombre de procédures.
Aujourd'hui, l'article 9 fera bien partie du texte présenté devant l'Assemblée nationale. Anne Bruniera est députée La République En Marche du Rhône, rapporteure du projet de loi. Elle défend cet article.
On ne sait pas dans quel état est la cathédrale véritablement. On ne sait pas notamment dans quel état est sa voûte, quel type de matériaux seront nécessaires. Et c'est pour ces raisons-là que les dérogations sont prévues. Et pour rassurer et les députés et les sénateurs, en fait, l'Assemblée nationale a mis en place une mission de suivi des ordonnances qui permettront de faire la plus grande transparence sur ces éventuelles dérogations.
Et rappelons que c'est bien sûr l'Assemblée nationale qui vote aujourd'hui, qui a le dernier mot sur le sujet.
Ilan Malka. Et pour clore ce journal, il est question d'une autre œuvre d'art, un joyau encore plus connu que Notre-Dame de Paris, si c'est possible, la Joconde. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci déménage, mais il reste au Louvre. Le tableau s'installe temporairement dans la galerie Rubens du musée parisien. Le temps de remettre à neuf son écrin initial, la salle des États. Alors déménager des tableaux, le musée du Louvre en a l'habitude, mais avec la Joconde, tout prend des dimensions exceptionnelles. Le reportage de Théo Conscience.
Le musée du Louvre a beau déplacer plus de 1000 tableaux chaque année, quand il est question de la Joconde, c'est toujours un cas particulier. Sébastien Allard est le directeur du département des peintures au Louvre.
C'est compliqué par la célébrité du tableau et surtout sa fragilité. Léonard ayant peint sur un support extrêmement fin et qui présente une fente, un support de bois, donc très sensible aux variations climatiques.
Pour minimiser ces variations climatiques, le tableau va donc être placé le temps de son transport dans un caisson climatisé.
Tout est mis en œuvre avec un restaurateur pour être toujours autour de 20 degrés et 50% d'hygrométrie, température de la vitrine, des deux vitrines et d'une caisse qui sera climatisée à cette température-là.
La salle qui aura le privilège d'accueillir la Joconde pendant 2 mois et demi est la galerie Rubens, un honneur qu'elle doit surtout à sa taille.
La galerie Rubens a été choisie par la direction du musée parce que c'est la plus grande salle disponible et donc qui permet de gérer les flux extrêmement nombreux, à peu près 20 000 visiteurs par jour, qui viennent admirer le tableau de Léonard de Vinci.
Mi-octobre, la Joconde retrouvera sa place dans une salle des États rénovée qui aura changé de couleur, et ce quelques jours avant l'inauguration de l'exposition Léonard de Vinci.
Un mot très rapide du temps de ce mardi, il fera beau partout, malgré quelques nuages à l'ouest le matin et à l'est. L'après-midi, les températures comptaient de 8 à 22 degrés ce matin, de 22 à 33 degrés cet après-midi.
Merci, c'était le journal d'Anne Lorchouin.